RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Bonsoir, c'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Véronique Rigolet.
Bonsoir Roselyne.
Alors pour respecter l'égalité des temps de parole entre les candidats, cette émission sera divisée en deux parties. À 18h30, nous recevrons Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, député de l'Essonne et candidat à la présidentielle. Mais tout d'abord, notre premier invité et le premier secrétaire du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. C'est un jour de tristesse pour vous et beaucoup de socialistes. Vous avez perdu une figure historique du PS, Henri Emmanuelli, ancien ministre, trésorier du PS, ancien premier secrétaire, ancien président de l'Assemblée nationale, donc figure historique de la gauche. Et c'était une grande gueule. Qu'est-ce qu'il a apporté au PS et pourquoi il vous manquera ?
Bien, c'était un compagnon de François Mitterrand. Il avait été à la fondation du Parti Socialiste en 1971. C'était un personnage de conviction, et en même temps très chaleureux et très respectueux. Il y avait une certaine forme d'élégance chez lui. Mm-hmm. Il l'avait montré quand il avait été battu lors de la primaire face à Lionel Jospin. Il s'était mis à son service, et même quand il y avait des désaccords, il n'était pas d'accord avec François Hollande ou avec Dominique Strauss-Kahn d'ailleurs, ils étaient vraiment aux antipodes l'un de l'autre, et quand il y avait eu les ennuis de Dominique Strauss-Kahn, il avait été très présent auprès des amis de Dominique Strauss-Kahn. C'est un personnage comme cela, entier, mais respectueux. Et donc ce qu'il a apporté au Parti Socialiste, c'est la culture de la première gauche, c'est-à-dire celle du mitterrandisme, très laïque, très républicaine, très hostile à la deuxième gauche. C'était quelqu'un qui aimait être dans les Landes.
C'était surtout devenu un frondeur ces dernières années sous le quinquennat de François Hollande.
Il l'était depuis longtemps, puisqu'il était en désaccord avec le traité de Maastricht, et c'est à ce moment-là qu'il avait décidé de faire campagne hors de son parti. Ça lui avait énormément coûté, même si on l'avait critiqué, même pour certains condamné. Il avait, à partir de là, décidé d'être dans l'opposition à la majorité du Parti Socialiste.
Voilà donc pour donc Emmanuelli qui était votre ami. Alors autre journée compliquée pour les socialistes et pour le gouvernement, et bien c'est la démission du ministre de l'Intérieur, donc Bruno Leroux, à son tour mis en difficulté. Selon une émission quotidienne sur TMC, il aurait employé ses filles de 15 et 16 ans entre 2009 et 2016 pour un montant de 55 000 euros. Le parquet financier donc a ouvert une enquête. Donc voilà, ses jours étaient comptés. Est-ce qu'il a pris la bonne décision en démissionnant ?
Est-ce qu'il en avait d'autres ?
Je respecte sa décision, mais vraisemblablement, il l'a prise après avoir discuté avec le président de la République et le Premier ministre. Il est suffisamment instruit de la vie politique française pour savoir que c'était très difficile pour lui de se maintenir dans une situation où d'autres sont confrontés au même sujet et ne démissionnent pas.
Ouais. Il n'était pas à la hauteur de ce devoir d'exemplarité que le Premier ministre Cazeneuve mettait à nouveau en exergue cet après-midi quand cette affaire a été révélée.
Je ne suis pas sûr que les propos ciblaient le ministre de l'Intérieur, car en l'occurrence il s'agissait d'un emploi quasiment précaire pour ses filles. Je pense qu'il avait en tête sûrement d'autres personnalités de la vie publique, comme Marine Le Pen ou François Fillon.
Et vous ? Alors, je vous propose d'écouter tout de suite Bruno Leroux, qui s'est exprimé, donc, il y a quelques instants.
J'affirme mon honnêteté dans les rapports humains, comme dans tous mes actes politiques. Mais ma responsabilité est aussi de préserver totalement l'action gouvernementale. C'est pourquoi j'ai adressé au président de la République ma démission. Celle-ci me permet, sans autre considération que ce que je suis en tant qu'homme et en tant que père de famille, d'affirmer clairement mon honnêteté, mon attachement à la vérité et à une République dont j'ai toujours essayé de défendre les valeurs, ce que je continuerai, bien entendu, à faire. Je vous remercie.
Alors, le gouvernement ne termine pas en fanfare ce quinquennat Hollande, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une pratique répandue, hein, puisque on l'a vu, hein, c'est arrivé à François Fillon, sans doute à d'autres. C'est légal si on a bien effectué le travail, et c'est toute la question de le vérifier. L'enquête le dira. Mais est-elle pour autant moralement acceptable, dans le sens où on jette forcément la suspicion sur la personne qui en a profité, elle perturbe l'exercice du pouvoir. Est-ce qu'il ne faut pas en finir une bonne fois pour toutes avec ces méthodes de népotisme qui sont quand même un peu gênantes?
Vous savez, moi, quand l'affaire Fillon a éclaté, j'étais l'un des seuls, si ce n'est le seul, à dire que le problème pour moi n'était pas le fait d'avoir embauché un proche, mais le fait qu'il ait travaillé ou pas. Maintenant, j'entends bien que pour l'opinion, d'une manière générale, on dit c'est pas possible d'employer des gens qui sont proches de sa famille, vu le chômage, vu la situation telle que nous la connaissons aujourd'hui. Donc, évidemment, ce que vous exposez, à savoir le contrôle par l'Assemblée nationale des personnalités ou des personnes que l'on emploie, va se trouver posé. Normalement, un parlementaire, c'est la séparation des pouvoirs, a le droit d'embaucher qui il veut, comme il veut, au salaire qu'il veut.
C'est légal.
Légal.
Mais est-ce bien moral ? Est-ce que vous, précisément, sur cette affaire Leroux, vous trouvez qu'il est moral d'embaucher ces deux filles, l'une collégienne, l'autre lycéenne, à des salaires supérieurs au SMIC, comme assistante parlementaire pour des boulots d'été?
Alors, pour des boulots d'été, toute peine mérite salaire, et je suppose, c'est toute l'enquête.
3 500 euros.
Nous n'en savons rien. Hein, aujourd'hui, sur la foi.
Ce que l'on sait, c'est que Bruno Leroux n'a pas démenti ces
informations.
Nous n'en savons rien.
Il y a une enquête. Donc, sur la base d'une enquête menée par des journalistes, qui est tout à fait respectable. Aujourd'hui, on est face à cette situation. Donc, on verra.
Il faut peut-être en finir avec justement cette pratique-là. Il y a une question de légalité. Légalité, vous l'avez, puisque vous avez le droit de faire travailler des gens de votre famille. La question est,
Il faut un organisme de contrôle. Il faut que l'Assemblée nationale puisse contrôler les personnes qui viennent.
C'est ce qu'on dit à chaque fois, si je me trompe.
Non, mais au fur et à mesure, ça se fait. Aujourd'hui, vous savez, à l'Assemblée nationale, tout est tatillon. On contrôle votre compte en banque, votre femme, votre précédente femme, si elle est mariée, combien elle a d'argent, etc. Ça va très très loin, croyez-moi.
Pas assez loin, visiblement.
Mais parce qu'on ne contrôle pas les assistants parlementaires. Bon, voilà, donc ça peut être une évolution dans le futur Parlement. Mais moi, je ne voudrais pas quand même qu'au nom d'une transparence nécessaire, à la fin, le parlementaire soit réduit dans ses capacités d'investigation et de travail vis-à-vis de l'exécutif. Et vis-à-vis d'autres grands groupes de pression qui existent, ou même vis-à-vis des médias. À la fin, on va avoir des parlementaires qui ne seront pas, déjà qui sont plus faibles, que dans d'autres démocraties, hein, quand on compare les moyens des parlementaires français par rapport simplement aux moyens de nos camarades allemands, c'est la moitié.
Sans aller aussi loin, on prend déjà la proposition de Bruno Leroux quand il parlait de François Fillon et de ses soucis à l'époque. Il disait voilà, on devrait interdire d'embaucher les conjoints, on rajoute les enfants et à ce niveau-là, ça ne fragiliserait pas le travail parlementaire.
Les conjoints, les enfants, les maîtresses, les amis, les machins, etc. Bon, on n'arrête pas. Moi, je n'embauche pas ni mes enfants, ni des proches.
On va bientôt devoir vous poser la question.
Oui, mais bon, ça a été contrôlé. Il y a même une enquête certain nombre de journalistes, parce que quand je suis quelqu'un d'exposé, évidemment, on a voulu savoir qui étaient mes assistants parlementaires, et on n'a strictement rien trouvé. Il n'y avait rien à chercher, de toute façon.
Bon, je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait dire avec vous, en tout cas, parce que vous n'en savez, a priori, pas plus que nous, pas plus que les juges qui enquêtent. Voilà. Donc on va passer peut-être au débat d'hier soir. Alors justement, ces affaires qui polluent le monde politique dans tous les camps, comment vous expliquez qu'après 2 mois de feuilleton Fillon, ces affaires n'ont pas été évoquées hier une seule fois dans un débat à 5 candidats alors qu'il y avait un mis en examen, Bon, des soupçons sur Marine Le Pen et sur son patrimoine, et là, c'est pas des soupçons, mais où elle a fait un bras d'honneur au juge. Seul Mélenchon a raillé les pudeurs de gazelle des uns et des autres, et personne n'a prononcé le mot mise en examen. Est-ce que là, il n'y a pas un problème entre les politiques et la vérité, quoi, ou la...
Écoutez, en tant que praticien de la chose, oui, j'ai été un peu surpris, je dois le dire, que personne n'ait mis ça à l'ordre du jour, mais le journaliste aurait pu le faire. Les journalistes auraient pu poser la question. Monsieur Fillon, vous avez été mis en examen. Madame Marine Le Pen, vous l'avez été. Vous n'avez pas voulu obtempérer un juge. Est-ce que vous pouvez vous expliquer? Ils n'ont pas voulu le faire, à mon avis. Pourquoi?
Oui.
Parce que, comme pour une fois, ils pouvaient parler enfin de leur programme et un peu de politique, ils se sont dit, on va pas en rajouter et faire un tunnel de 20 minutes ou 25 minutes sur les affaires.
Pas voilà, parce que ça impacte tout le monde, en fait.
Yes. Non, je pense pas, parce que comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon, ni Monsieur Macron, ni Benoît Hamon ne sont à cette étape et aujourd'hui dans des affaires.
Est-ce que cette affaire Leroux, justement, peut impacter la campagne de Benoît Hamon, sa campagne contre le parti de l'argent?
Non, je crois pas.
Je crois que c'est Monier.
On se calme, s'il s'agit, même si c'est des
ça,
salaires.
Ça l'a beaucoup gêné aujourd'hui à Bruxelles.
Mais on n'est pas dans des émoluments extraordinaires ou dans des commissions, parce qu'on va aussi avoir ça dans quelques heures, des commissions octroyées à un ancien Premier ministre pour avoir fait rencontrer un mania du pétrole et Poutine. On n'en est pas là.
Quatre premiers ministres dans un quinquennat, ça fait beaucoup. Ça aura été un quinquennat agité, parce que là, il va être remplacé, Bruno Le Roux, par Matthias Fekl. Vous ne terminez pas en beauté, on va dire, ce quinquennat.
Je crois que les deux ne sont pas liés. Le quinquennat a été compliqué et difficile pour des raisons économiques et sociales, pas simplement pour des changements de ministère. Il n'a pas été facile parce qu'on a eu à reprendre le pays dans une situation extrêmement difficile. Et puis après, il y a eu des problèmes politiques au sein de la gauche, oui, c'est vrai.
Alors, un mot des personnalités qui commencent à rejoindre Emmanuel Macron. On sent que là, il y a un petit frein qui est donné à des gros ministres comme Jean-Yves Le Drian, qui, dans une situation politique, pour l'instant, est dans l'attente. Mais en tout cas, certains n'ont pas tardé, comme la ministre Barbara Pompili. Elle a expliqué pourquoi elle rejoignait Emmanuel Macron, donc le mouvement de Macron En Marche. On l'écoute.
Après mes réflexions, j'ai décidé d'apporter mon soutien à la démarche, au projet et donc à la candidature d'Emmanuel Macron. Voter Emmanuel Macron, d'abord, c'est un peu la mesure d'urgence pour éviter de se retrouver face à une droite très en régression et au Front National au second tour, mais aussi parce qu'il porte, par sa méthode, par sa manière d'appréhender les choses, des solutions qui, à mon avis, peuvent aussi éviter d'empêcher encore une fois une montée du Front National. C'est-à-dire qu'il faut bloquer le Front National, mais il faut aussi comprendre pourquoi il monte. Et je crois qu'il est le seul aujourd'hui à apporter une méthode pour faire baisser le Front National.
Donc, si on résume, lui seul a des idées, lui seul peut vaincre le Front National.
C'est un bon résumé.
Urgent de le rejoindre.
Hein. Il est sûrement urgent de le rejoindre, puisqu'il y a des législatives derrière, et que Mme Pompili est candidate, et en très mauvaise posture. On a parfaitement compris les raisons de sa démarche. Mais je peux peut-être revenir sur le fond.
Peut-être expliquez-nous un peu plus.
Parce que dans une circonscription, où s'il y a un candidat d'En Marche aux élections législatives, elle a perdu. Donc elle essaye de neutraliser cette possibilité.
Mais c'est le cas pour tous les candidats au PS, alors.
Non, il y en a d'autres qui ne sont même pas candidats aux législatives et qui vont. Ils peuvent avoir cette démarche. Moi, je respecte tout le monde. Mais je voudrais venir sur le fond. Là, on est dans l'infrapolitique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de projet, il n'y a plus de programme, il n'y a plus de décision programmatique pour les Français, c'est faire barrage au Front National. Bon, avec ce raisonnement-là, si Fillon était en situation de se battre avec Marine Le Pen et qu'il n'y avait pas eu les affaires, ou un autre, ou Juppé, alors toute la gauche aurait été chez Juppé. Non, c'est pas possible. On peut pas dire aux Français... En fin de compte, il n'y a qu'une seule chose à faire dans la vie politique française, c'est faire barrage au Front National. Parce que, à partir de là, nous tuons, nous stérilisons tout le débat de la présidentielle. Et nous allons faire, à la fin, que le président de la République, si dans le cas de l'espèce, c'était Emmanuel Macron, serait un président élu contre et pas élu pour. C'est-à-dire un président qui serait faible, obligatoirement. Et
c'est ce que vous dites. Vous dites, voilà, le prochain président de la République sera faible. Hein, donc, vous anticipez déjà la défaite de Hamon. Donc, on ne peut pas reprocher
non,
à certains...
Non, j'ai pris soin. Ouais. Je fais attention, parce qu'après, je suis repris par des journalistes qui suivent de près les déclarations. Et j'ai pris soin de dire que ce soit Fillon, que ce soit Macron, ou même mon candidat Hamon, il sera faible. Pourquoi ? Parce qu'il sera élu, non pas pour ce qu'il dit, mais pour faire barrage à Marine Le Pen. C'est la situation dans laquelle nous sommes, et il aura vraisemblablement, aucun des trois n'aura une majorité absolue à l'Assemblée nationale.
Donc vous trouvez que tout le monde part un peu vite, tout le monde quitte le navire un peu vite, au risque d'endommager le débat.
Tout le monde ne quitte pas le navire, je
Bernard
rappelle...
Bernard Poignant, le proche conseiller de Hollande, sans
d'abord, Bernard Poignant appelle à voter Emmanuel Macron, mais appelle à voter aux législatives pour les socialistes. C'est pas tout à fait la même démarche. Mais ce que je veux dire là, c'est que Benoît Hamon est en termes de parrainage le second après François Fillon. Donc les socialistes sont massivement derrière la candidature de Benoît Hamon.
Mais si Macron,
et ce n'est pas une personnalité, si respectable soit-elle, si homme d'État soit-elle, comme Le Drian, qui modifie la nature ou l'histoire ou la composante du Parti socialiste.
Votre grand ami allemand Martin Schulz, qui vient d'accéder à la tête du SPD, fait l'article sur Emmanuel Macron. Vous
dites ça comment? C'est Sigmar Gabriel qui fait ça, parce que Sigmar Gabriel. Martin Schulz est en train de recevoir en ce moment même Benoît Hamon à Bruxelles.
Ce qui n'empêche.
Parce que Martin Schulz dit très justement que s'il veut gagner les élections législatives en Allemagne, il ne faut pas être, au contraire, dans la grande coalition, dans la continuité du gouvernement Schröder, et qu'il faut être une alternative, la vraie alternative à Merkel. Donc là, l'argument ne me semble pas tout à fait adéquat par rapport à la situation.
Si on suit les sondages, aujourd'hui, Emmanuel Macron gagnerait cette présidentielle, mais entre les deux tours, est-ce que vous voteriez, si Benoît Hamon n'est pas présent, bien évidemment, est-ce que vous allez voter Macron ?
Les sondages disaient aux Pays-Bas que Geert Wilders allait l'emporter lors des élections.
Non, il le disait pas.
Il disait,
était en deuxième position.
Qu'il allait gagner les élections
Il était en deuxième position dans les sondages.
Non, je vous assure, je connais bien mes camarades du PVDA, qui est le Parti Social-Démocrate, et on en parlait. Il était en tête. On le disait qu'il était en tête. Il ne l'a pas été, loin de là. Bien, ceci étant dit, on peut prendre un autre exemple. On disait que le Brexit n'allait pas passer.
C'est pas la question que
on disait que Donald Trump n'allait pas l'emporter. Donc il faut, je crois, être très prudent. Et je réponds à votre question.
Un cas possible.
Soit Fillon, que ce soit Macron, ou que ce soit Hamon, ou que ce soit même Mélenchon, je voterai toujours pour un candidat démocrate contre le Front National.
Voilà, donc c'est
clair. Et vous ne craignez pas l'hémorragie vers Emmanuel Macron ? C'est ce que vous nous dites ce soir, c'est pas ce qui est en train de se produire.
Non, il y a des socialistes, moi je ne le nie pas, qui, parce qu'ils veulent faire barrage, pour un certain nombre d'entre eux, au Front National, vont vers Emmanuel Macron. Mais ne dites pas que les socialistes sont dans l'hémorragie.
On a compris. Jean-Christophe Commandelis, la vraie question aujourd'hui qui se pose pour vous, vous savez pertinemment qu'il y a peu de chances que Benoît Hamon gagne, ou alors vous croyez peut-être au Père Noël. Mais enfin, a priori, c'est pas possible de gagner cette élection. Quel va être l'avenir du Parti Socialiste ? Est-ce que ça va être un parti à la Jeremy Corbyn en Grande-Bretagne ? Comment vous imaginez cet avenir-là, de ces deux gauches qui avaient analysé sur ces deux gauches irréconciliables ? Elles le sont réellement ?
Alors, je pense d'abord qu'il faut se battre jusqu'au bout et qu'une élection n'est jamais faite. Que personne ne sait, il y a 48 ans, vous ne saviez pas que Bruno Le Roux serait dans la difficulté, et que donc tout est encore possible. On est dans une élection présidentielle rocambolesque, et il faut être clair que le combat se mène jusqu'au bout.
Voilà, on va terminer peut-être avec ces mots optimistes. Merci Jean-Christophe Cambadélis d'être venu sur notre plateau. Après la pause, après les infos, on retrouvera le président de la France Debout, Nicolas Dupont-Aignan, candidat à la présidentielle.
RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Retour dans Mardi politique sur France 24 et RFI avec Véronique Rigolet, notre deuxième invité, Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes président de Debout la France, candidat à l'élection présidentielle et député de l'Essonne. Donc, merci d'être avec nous. On va parler de vous, de votre programme, de vos coups de gueule. Mais tout d'abord, l'actualité, bien sûr, c'est la démission du ministre de l'Intérieur, Bruno Leroux, après l'ouverture d'une enquête du parquet financier qui a été ouverte cet après-midi sur une nouvelle affaire donc d'emploi suspecté fictif pour ces deux filles de 15 et 16 ans. Peut-être d'abord, avant d'entrer sur ce problème moral qui infecte, on va dire, un peu la vie politique en ce moment et cette campagne présidentielle, votre réaction? Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir démissionné?
Il a bien fait. Voilà.
Oui, point barre.
Il n'avait pas le choix, non?
C'est ce que vous voulez que je raconte.
Oui, c'est vrai, vous n'avez pas tort. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que dans votre proposition numéro 1, je cite, c'est votre première proposition, hein, si je ne m'abuse, vous me dites si je me trompe, supprimer les privilèges et les avantages indus des anciens présidents, premiers ministres et des élus en général. Donc, ce dont a bénéficié M. Fillon et M. Leroux, vous supprimez?
Alors, position délicate, je vais être très franc avec vous. Parce que moi, je ne l'ai jamais caché. Ma femme travaille avec moi depuis 20 ans. Elle était avocate.
Elle travaille vraiment?
Eh bien oui, c'est ça. Et personne ne me l'a jamais reproché parce que, d'abord, elle n'est pas toute seule. Il y a trois personnes. Elle est en circonscription. On lui reproche même de travailler très
présente. On la voit, donc on la voit.
Oui, puis on la voit travailler surtout. Ouais. Et puis elle bosse. Et il n'y a que dans le monde politique d'ailleurs, dans un certain monde politique, où on cherche à expliquer ce qu'on fait. Si vous interviewez quelqu'un dans la rue, n'importe qui, il sait ce qu'il fait dans son boulot.
Oui, normalement.
Donc la question, ce n'est même pas les emplois familiaux. La question, c'est les emplois fictifs. Parce qu'on peut interdire les emplois familiaux et puis après que tel député ou sénateur recrute quelqu'un pour pas travailler. Et moi, je crois qu'il faut un vrai coup de balai.
Vous supprimez pas ça. Vous
non, mais on peut les supprimer. Je pense qu'il faut les supprimer, mais ça va pas régler le problème pour autant.
Comment on moralise?
Mais est-ce que c'est un privilège, ça? Est-ce que c'est un privilège?
Non, parce que normalement, on travaille quand on est payé par faire quelque chose.
Le vrai privilège. Même quand on a 15 ans, par exemple.
Non, mais là, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est pour ça que c'est aberrant. Aberrant. Bon. Mais les privilèges, c'est quoi? C'est que j'estime quand on est élu, c'est un honneur. Et j'estime qu'il n'y a pas à avoir de privilèges. Ça fait des années que je réclame.
Comment
je vais
vous
donner
un
exemple.
Je vais vous donner un exemple.
Ça fait des années que je réclame que le statut des retraites des élus soit les mêmes que pour les salariés, pour les députés. Je réclame depuis des années que la fameuse IRFM, vous savez, l'indemnité représentative des frais de mandat, soit comme pour tout salarié dans une entreprise, chez vous, j'imagine, des frais de taxi, vous allez au comptable, il vous rembourse. Pourquoi les députés, les présidents, les anciens premiers ministres ont-ils besoin d'inventer des statuts sur mesure qui nous décrédibilisent vis-à-vis de l'opinion, alors qu'il y a plein d'élus honnêtes? Parce que je ne voudrais pas, à l'inverse,
vos frais de fonctionnement qui vous décrédibilisent.
Mais
là,
si, c'est le sentiment des Français.
Le manque de moralité qu'on a pu observer ces dernières semaines,
mais
ces derniers mois.
Mais le sentiment des Français que les hommes politiques se sont taillés des privilèges sur mesure. Je pense qu'il est temps de faire l'abolition des privilèges. Mais il n'y a pas que les hommes politiques, d'ailleurs. Et je pense que le pays ira mieux quand on enlèvera toutes ces espèces d'histoires absurdes. Et puis, parallèlement, il y a la question de l'exemplarité, la moralité.
La moralisation, oui.
Vous savez, moi, j'ai été élu dans une ville en faillite, il y a bien longtemps, que j'ai redressée. Et quand je suis arrivé, j'ai pris la décision de renvoyer systématiquement tous les cadeaux. On m'a pris pour un dingue. Bon. Eh bien, très vite, ça s'est calmé. Et l'exemplarité, elle s'est très vite répandue. On m'a pu embêter, au sens, on a pu essayer de m'acheter. Et je pense que si les élus étaient beaucoup plus carrés...
Il y a beaucoup de tentations?
Non, je ne pense pas tant que ça. En revanche, j'estime inacceptable de recevoir des cadeaux. Inacceptable. Alors que c'est autorisé. Donc, ce n'est pas simplement une question de loi.
Là, ça ne joue pas sur les
cadeaux. C'est une question d'exemplarité.
Oui. L'exemplarité, aujourd'hui, elle se pratique dans les emplois d'assistants parlementaires. Comment on arrive enfin à moraliser la vie politique? Parce qu'à chaque fois, on nous dit,
par des lois,
comme l'a dit François Fillon hier,
lois, mais
on
aussi,
va faire une commission. À chaque
aussi,
fois, on fait une commission, quoi.
Je vais vous dire, ouais. Par le fait que les partis politiques devraient faire le ménage. Moi, dans mon parti politique, on a pris une décision. Dès que quelqu'un a le moindre ennui, hop, on l'écarte. On fait le ménage tout de suite. Eh bien, il n'y a jamais de problème. Donc, j'aimerais que les hommes politiques, les dirigeants politiques aient le courage de faire le ménage.
Alors, on passe à vous, à vos coups de gueule, parce que vous avez quitté, il y a quelques jours, le journal de TF1, parce que vous protestiez contre le temps de parole. Mais hier, vous avez reçu la compassion de la part de trois gros candidats qui regrettaient que les petits ne soient pas invités, hein, ceux qui sont dit petits candidats, donc eux aussi à débattre. Alors, vous avez raté le coche. Donc, nous, on va être sympas, on va vous poser cette même question. Vous avez une minute. Quel président vous voulez être ?
Le président de tous les Français, le président qui relève le pays, qui le sauve, qui lui redonne sa liberté, parce que la démocratie, c'est le droit du peuple français à disposer de lui-même, ça veut dire la renégociation des traités européens. Le président qui rétablit l'ordre, parce que chaque Français a le droit de pouvoir circuler librement. Et le président qui redonne une dignité par le travail en relocalisant 1 million d'emplois. Je suis convaincu qu'on peut offrir aux Français un patriotisme de bon sens, c'est-à-dire réconcilier les Français avec la politique, avoir une vision pour le pays et lui redonner toute sa place dans le monde avec une politique étrangère indépendante. Voilà. Alors, moi, la grande différence avec hier, c'est que je ne l'ai pas préparé, que c'est totalement improvisé.
Voilà, bah voyons, vous avez une
surprise. Alors c'est étrange, parce que dans votre improvisation, dans cette alternative hein, que vous pourriez être, que vous souhaiteriez être entre Marine Le Pen et François Fillon, très, très, très surprenamment, on entend dans tous les exemples le programme du Front National, que ce soit sur le protectionnisme économique, que ce soit sur la renégociation des traités européens, ou même sur la question de l'immigration. On va écouter ce qu'on disait d'ailleurs hier dans ce débat où vous n'étiez pas, Marine Le Pen.
Je veux arrêter l'immigration, c'est clair. Et j'assume totalement mon propos. Je veux arrêter l'immigration légale et illégale. Solde de 10 000 pour l'immigration légale. Ça fait 10 ans, je dis que 10 ans parce que je veux pas inquiéter les Français. Que 200 000 étrangers légaux entrent en France chaque année. Et je ne compte pas les illégaux qui doivent probablement être à peu près autant.
Vous-même,
je suis
vous-même,
très surpris, madame.
Vous-même, dans votre programme, il y a fermeture de Schengen et il y a un gros coup de frein sur l'immigration.
Oui.
Est-ce que
c'est
pas ce que
pas le même chiffre que madame Le Pen. Et je suis très surpris.
Moi.
Non, mais je suis très surpris. En fait, si on veut que la France ait des frontières, que les ouvriers français travaillent et qu'il n'y ait pas trop d'immigrés dans notre pays parce qu'on n'est pas capable de les assimiler, immédiatement, on est Front National. Alors,
mais c'est ce qu'elle
en disant
dit
ça, mais
débat,
elle dit ce qu'elle veut.
Oui, j'entends.
Mais, excusez-moi. Mais si dire que, si je peux finir ma phrase, dire qu'il y a du soleil et dire ce que pensent 95% des Français, c'est être Front National. On peut arrêter les élections et vous donner le pouvoir à Madame Le Pen. Moi, je suis différent. Tout le monde le sait. Eh bien, je vais vous répondre. Je suis gaulliste, républicain, social. Je ne viens pas du parti de Madame Le Pen et je ne ferai pas le ménage. C'est une évidence de la même façon qu'elle. D'autre part, je n'ai pas du tout, si vous lisez mon livre, Agenda d'un président, le même programme.
Alors,
attendez,
vrai.
Si je peux
non,
finir, parce que madame m'a posé une question très importante. Je n'ai pas le même programme.
Non,
quand je parle de la liberté des PME, quand je parle de la participation dans l'entreprise, quand je parle de la recherche scientifique, quand je parle de la renégociation européenne, par exemple, je n'ai pas du tout la même politique que Mme Le Pen. Donc, je voudrais
vous
qu'on
voulez pas
cesse...
sortir de l'euro, vous. Vous dites
qu'on
veut sortir du carcan supranational. Vous,
je voudrais qu'on cesse, dès qu'on a un peu de bon sens, à dire, ah ben, vous êtes comme Mme Le Pen.
Non,
quand je dis relocalisation, dis relocalisation d'entreprise, pourquoi vous dites pas comme M. Montebourg? C'est curieux. En fait, on veut enfermer les Français. Vous voulez enfermer les Français. Toute personne qui aime la France, qui a un drapeau, serait Front National. Eh bien non. Je suis convaincu qu'il y a des millions de Français qui veulent un patriotisme plus sérieux, que celui de Madame Le Pen, avec des solutions beaucoup plus raisonnables.
Mais qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce qui vous empêcherait si vous voulez, je peux dire les points qui vous rapprocheraient de Marine Le Pen.
Mais
supprimer les accords de Schengen, renégocier les traités, sortir de l'OTAN, supprimer la directive.
Mais il
n'y
a pas que Madame Le Pen qui le dit.
J'entends bien, mais il y a quand même beaucoup de...
Mais non, mais c'est extravagant ce que vous dites.
Non, c'est pas extravagant.
Si, je peux permettre.
J'ai juste envie de savoir...
Comme Monsieur Mélenchon... Je vais au bout des choses.
Pourquoi vous n'allez pas au Front National? Qu'est-ce qui vous en empêcherait?
Mais parce qu'un gaulliste républicain comme moi n'a rien à voir avec le Front National. Regardez ceux qui m'entourent.
Pourquoi? Je veux savoir pourquoi.
Si je peux vous répondre.
Allez-y.
Je vais vous répondre.
1, 2, 3, allez-y.
Mais je vais y aller. Attendre. Regardez le Parti Debout la France. Est-ce qu'il y a une arrière-boutique avec les gens qu'il y a au Front National? Jamais. Regardez mon parcours politique. Est-ce que vous croyez que j'aurais été élu à 80% maire d'une ville de banlieue parisienne, à 3 reprises, le mieux élu de France? Sur le projet, mon programme économique est beaucoup plus raisonnable et beaucoup moins socialisant que Madame Le Pen. Je veux libérer les entreprises, les PME. Sur l'avenir du pays,
la prospective... Il y a la
Je ne peux pas finir.
Non mais...
Je ne peux pas finir. Et il y a des points communs. Mais quand M. Mélenchon dit... Au premier jour, j'arrêterai la directive travailleurs détachés. Je dis la même chose, comme Madame Le Pen. En vérité, il y a trois personnalités.
Mais il y a aussi des choses entre Marine Le Pen et Mélenchon.
Eh bien, très bien.
Qui sont...
C'est normal, comme il y a des choses communes entre M. Macron et Fillon, qui veulent faire souffrir le peuple français au nom de l'Union européenne. La vraie question, c'est qu'il y a deux candidats pareils, M. Macron et M. Fillon. L'un veut faire souffrir doucement le peuple sans le dire... L'autre veut faire la purge, parce que tous les deux obéissent à Madame Merkel. Voilà. Et puis, il y a trois candidats qui veulent redonner leur liberté à la France, mais qui le feront différemment. Monsieur Mélenchon, beaucoup plus à gauche, Madame Le Pen, qui vient de la droite extrême, et Monsieur Dupont-Aignan, désolé de me citer, qui a un programme gaulliste républicain, avec des gens très raisonnables, qui sont élus dans toute la France, à plus de 70% des voix, des gens bien... Parce que je crois que l'alternative...
Ils sont pas bien alors, mais...
L'alternative... Mais j'ai pas parlé du Front National.
Des gens bien.
Moi, je défends un projet. Et je peux répondre à vos questions sur mon projet. Vous savez, le Front National, c'est le Front National. Moi, je présente un autre projet patriotique. Non. Et ce qui gêne le petit système au pouvoir, en ce moment, et une certaine presse, c'est qu'enfin... Enfin, le patriotisme n'est plus celui obligatoirement du Front National. Les Français vont choisir un beau patriotisme irréprochable.
C'est quoi un bon patriotisme? Parce que on
c'est celui qui d'abord qui va gagner. C'est-à-dire que le Front National est l'assurance vie du système à cause de ses excès. Et moi, je suis convaincu que, par exemple, sur l'immigration, parlons de l'immigration. Ouais. J'ai toujours dit que c'était absurde de dire 10 000 immigrés par an. Parce qu'il y a 70 000 étudiants qui viennent étudier dans notre pays. Eh bien, je dis comme Madame Le Pen, stop à l'immigration massive. En revanche, je dis comme Monsieur Dupont-Aignan, il faut du bon sens.
Vous dites la pompe aspirante aussi.
Oui, bien sûr.
Sont, les aides d'État.
Je vais supprimer les aides sociales aux étrangers pendant 5 ans. Quand ils sont en France, ils devront charger leurs droits pour en bénéficier au bout de 5 ans. C'est pas la préférence nationale. La préférence nationale, ce serait qu'on donne rien à vie. Non. Je suis pas d'accord là-dessus avec Madame Le Pen. Je suis beaucoup plus modéré, si vous voulez tout savoir. Je veux que les Français soient respectés. Et je veux le faire avec douceur. Avec rassemblement.
Vous êtes prêt à rouvrir un bagne aux îles Kerguelen pour les djihadistes?
Parce que j'estime qu'un djihadiste... J'espère qu'un djihadiste... Ouais. La modération de tuer au Bataclan et de tuer...
Combien, mais la réouverture du bagne, on n'est pas nécessairement dans une modération extrême.
Non, on n'est que des djihadistes qui ont égorgé des gens doivent payer. Ceux qui n'étaient pas français, ils partent. Je parle d'échéance de nationalité. Ceux qui étaient français, eh bien, ils vont prendre au vert pendant quelques années et se rappeler ce qu'ils ont fait. Car égorger des gens, massacrer des Français, ça se paye.
Imaginons qu'elle remporte les élections présidentielles. Est-ce que on sait qu'elle aura du mal à avoir une majorité aux prochaines législatives? Est-ce que si elle faisait appel à vous en tant que ministre, pourriez entrer dans son gouvernement?
Écoutez, je suis candidat à la présidentielle, car je considère
3% là.
Les sondages augmentent et puis en plus ils valent pas grand chose. Et vous verrez, Je suis candidat à la présidentielle pour la gagner. Ah. Parce que justement, je suis absolument certain que les Français, notamment les 20 millions de Français qui s'étaient abstenus au régional, n'en peuvent plus de ce dilemme terrible. Soit on a M. Macron, M. Fillon au service de la pire régression sociale qui soit, et régression économique, soit on part avec les excès du Front National.
Donc c'est
bien,
qui
je suis convaincu.
C'est vous qui serez président.
Vous n'en savez rien.
Non, mais je vous demande.
Eh bien,
votre
je
avis.
Fais tout pour. Ah, et oui. Je parle aux Français et je leur dis, vous avez la chance inouïe de bouleverser le système, de reprendre le pouvoir. Ne croyez pas les sondages. Ne croyez pas ceux qui vous intoxiquent. Vous savez, 13 millions de vues de mon départ de TF1. Ah, 13 ce soir.
Ah,
13.
Ce soir.
13.
Donc,
et 26 millions de personnes touchées. Enfin, donc, les réseaux sociaux font que le peuple français va enfin reprendre le pouvoir. Arrêtez la manipulation médiatique.
Mais vous, vous n'avez pas fait la manipulation médiatique en quittant ce plateau. Vous faites un coup médiatique,
non,
vous savez.
Je dis aux Français.
Vous dites, j'ai fait 11 millions de clics.
Je dis aux Français.
Donc,
vous... je savais pas qu'il y aurait tant de succès. Je dis aux Français une chose. Oui, je l'ai fait exprès. Pour dire quoi?
Arrêtons, parce que tout le monde manipule tout le monde.
Non.
Donc,
non. Non.
Si.
L'égalité républicaine, sous un régime de liberté, de démocratie, c'est quand on entre dans une campagne officielle, on fait pas un débat à 5. Il y a pas des grands candidats et des petits candidats. Il y a pas de petits et de grands Français. Il y a l'égalité républicaine. Et moi, je ne veux pas vivre dans une république bananière. Je ne veux pas vivre dans un pays où un directeur de chaîne choisit ceux qui ont le droit de parler. Et s'il y a autant de Français qui me soutiennent depuis que j'ai dit la vérité, cette vérité, c'est que les Français, vous savez, ils n'en peuvent plus du système où des travailleurs détachés viennent sans payer de charges sociales et leur volent leur emploi. Ils n'en peuvent plus de ces systèmes où on donne 35 000 euros à une famille d'étrangers, d'immigrés, de clandestins, alors qu'ils payent les études de leurs enfants. Ils n'en peuvent plus de ce système où il y a une injustice partout dans la société. Ils veulent retrouver du boulot, ils veulent retrouver des beaux salaires. Je veux augmenter les retraites de 100 euros par mois pour 6 millions de retraités, et je prendrai l'argent sur l'Union européenne. Il est temps de reprendre notre liberté. Et je dis aux Français, arrêtez de subir. Voilà ce que j'ai dit en partant de TF1. Et je vais vous dire,
mais
ça
vous
va changer.
Mais vous y êtes allé quand même.
J'y suis allé pour dire ça aux Français.
Mais vous y allez quand même.
Mais heureusement.
Oui.
Parce que je n'accepte pas qu'une chaîne de télévision fasse la loi.
Mais le Conseil, le Conseil d'État vous a donné tort.
En référé.
Oui.
C'est pas le jugement au fond.
Ah d'accord, vous pensez que...
Le référé, oui.
In fine...
Oui, la Cour européenne d'ailleurs des droits de l'homme sanctionnera sans doute cet abus de position.
En tout cas, on peut souligner votre ténacité, parce qu'en 2012, vous aviez fait 1,7.
Oui.
Aujourd'hui, vous êtes... Alors vous allez encore me contredire, mais je lis le dernier Opinionway, vous êtes à 3%, c'est pas folichon, mais vous croyez... En vos idées,
oui.
Et vous me dites, je vais gagner cette élection présidentielle.
Je crois aux Français.
Voilà.
Et je suis candidat pour les réveiller. Et les sondages se sont toujours trompés. Trompés de toujours. Monsieur
et
Trump, il avait 2%, oui.
De 3% à 27%.
Oui. Vous verrez d'ailleurs, ce soir, l'IFOP m'appelait en disant, on n'a jamais vu une telle augmentation en quelques jours. Vous savez, en plus, les sondages se trompent, sont manipulés. Tout le monde le sait. Parce qu'il y a la moitié des Français qui n'ont pas tranché et qui attendent un beau projet. Moi, je crois à un projet républicain, social et patriotique. Mmh. Et ce projet n'existait pas. Il commence à exister, il commence à être connu. Et je dis aux Français, vous avez tout pour réussir. Alors après, on verra, c'est eux qui tranchent. Mais la moindre des choses, c'est qu'on ait le choix.
Il reste 33 jours avant le premier tour.
Oui.
On verra si cette remontada, ce qu'on fait. Ce sprint final.
Oui.
Si vous n'êtes pas qualifié pour le second tour, est-ce que vous donnerez une consigne de vote ou vous ferez comme la dernière fois, pas de consigne de vote?
Je crois pas. Je prendrai mes responsabilités.
C'est-à-dire?
Eh bien, je prendrai mes responsabilités pour la France.
Et vous, à votre avis, là, puisque vous dites que vous avez à 3%, vous dites que dans un autre ligne, vous êtes à 5.
Mais qu'importe, parce que ça vaut
pas grand-chose. À qui vous piquez des voix? Marine Le Pen ou Fillon?
Mais.
À votre avis?
Je ne cherche pas à piquer des voix aux uns aux autres.
Bah
vous savez,
en piquez forcément.
Il y a
si
une chose que vous ne savez pas, je crois, en tout cas j'en ai l'assentiment,
je vais le savoir.
C'est qu'il y a 20 millions, 25 millions de Français qui ne votent plus.
Trucs.
Mais on échange d'ailleurs, on apprend chacun de l'un de l'autre. Il y a 25 millions de Français qui ne veulent plus entendre parler de ce jeu politique. Moi je m'adresse à ces gens-là et je leur dis, si vous allez voter, vous pouvez tout bouleverser. Vous avez un bulletin de vote et le bulletin de vote, il n'y a pas un petit bulletin de vote, il y a un grand bulletin de vote. Il n'y a pas les sachants et les autres. Et Vous avez 33 jours pour exercer votre vote.
Merci. Merci beaucoup, merci. Nicolas Dupont-Aignan, d'être passé sur... J'ai toujours peur de faire cette mauvaise lésion Dupont-Aignan que vous n'aimez pas.
Mais je n'ai pas fait. Je n'aime pas.